Ça utilise un sizing qui n'est pas prévu de base, on n'a pas l'impression que ça soit trop utilisé. On a une main qui a vraiment beaucoup d'équité maintenant. Est-ce que maintenant, il faut réfléchir à nos actions? Si on fait tapis, qu'est-ce qu'on va engendrer derrière? Est-ce qu'on engendre des folds des Dames X par exemple? Est-ce qu'il va. Est-ce que c'est ça en fait la vérité? Si faire tapis, je pense que c'est OK en termes d'équité, etc. On a toujours l'équité pour le faire. Et si on engendre un peu de fold, par exemple d'une paire plus draw, ça sera toujours des... qu'on décide de bet fold, je ne sais pour quelle raison. C'est un play profitable. Je pense que quand même, le standard serait quand même de call, mais c'est juste. Très bizarre parce qu'on rentre dans un nœud qui est pas censé vraiment exister. Enfin, personne joue ça comme ça. Dans double forgero, double tirage couleur, tirage quinte, turn en vrai, on a juste envie de jouer en tapis ou fold, enfin tapis ou check chez bébé. Donc je pense que juste call. Aussi parce qu'il a des draws moins bons, il a des ASIC flush draws, par exemple, choses comme ça à cœur, ou des ASIC moins bons qui vont peut-être pas bluffer river, mais qu'on aurait pu set up turn aussi. Donc je pense que je call, mais tapis en termes de V, ok, je pense aussi.
Ok. On a payé, le pot est énorme, 330 000. River, as de carreau. On a top pair. C'est tout ce qu'on a. Et là, notre adversaire va donc tenter un troisième barrel et va tout pousser et tout mettre au milieu.
Attends, il a.
Décision très compliquée.
Il y a le roi aussi qui donne quinte.
Il y a le. Non, pas du tout.
9, 10, 4.
Ouais. 9, 10, 4.
As. Dame, 19, 5.
As. Je vais au bout, moi. Je réfléchis même plus.
C'est payé chez Daniel.
Tu vois,
Mundir.
C'est là où on voit qu'il a progressé, Dan. Tu vois, là, il n'y a plus de flaque d'eau. Il y a, tu vois, c'est là tout de suite. Écoute-moi, la mort dans l'âme, je paye, effectivement.
Ce spot-là, évidemment, on a. C'est la main pour call. On a le meilleur. En fait, ce qui se passe, c'est que River, on attrape un bluff, en fait. Un bluff catch, en gros. On a un très bon bluff catch, très bon candidat à call, fait qu'on bloque les straights, qu'on bloque les meilleurs Dame-X, etc. En pratique, on est censé call tout le temps, call down, parce qu'en gros, on a juste l'équité tout le temps. Maintenant, est-ce que notre adversaire va bluffer ses flush draws sur l'as? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il va vraiment bluffer des draws? Moi, je pense qu'évidemment, avec ce combo-là, je call en général, mais contre certains profils où on ne trouve pas des bluffs en face, etc., je pense que fold est mieux. Juste parce que c'est une carte où les joueurs ne vont jamais bluffer. L'as, river, etc., dans un spot comme ça, ça ne bluffe jamais.
Non, mais même s'il a l'as, il a quoi de mieux que nous, que notre as valet dans cette histoire?
Bah, il est deux paires, il est straight, dame 10, dame 9. Et en plus, on peut qu'il défende dame 9 off. Non, il y a des mecs qui défendent dame 9 off ici.
Ah ouais, d'accord. Ouais,
bien sûr.
Ouais.
Donc dame 10 off, dame 9 off, 9 off, 10, 10, as dame. Et alors, par contre, le seul truc qui peut arriver.
As dame, il n'y aura pas trop bête?
Préflop, c'est possible qu'il défende as dame.
Préflop,
sachant qu'on lance UTG.
Et par contre, ce qui peut se passer, river, et c'est là où il faut prendre peut-être un poil plus call en fréquence, c'est parce qu'il peut avoir des ASIC flush draw à cœur, qui décide de faire tapis river en value parce qu'il ne nous met pas sur des as, etc. Bon, ça peut arriver, mais c'est quand même peu probable. Je pense qu'en vrai, il faut call down. En termes de maths, il faut caller tout le temps. Maintenant, je pense qu'en termes exploitant, il faut peut-être relier au fold, ça paraît un peu dingue, mais je pense que même avec la main, ce combo-là, etc., il y a des joueurs qui bluffent juste jamais sur la river. Et maintenant, on a un bluff catch. Est-ce qu'on a un bluff catch? Oui. La question, c'est est-ce que les mecs bluffent beaucoup ou pas? Parce que non. Voilà.
Nous, on a fini par fold. En face, il y avait as valet de cœur. On aurait partagé si on avait call.
Si
on avait parlé, ouais.
Eh ouais, Dan, on partage, loulou.
Je suis content.
Bah, moi aussi.
Ah non, on a foldé.
Non, il a payé. Les deux ont payé.
Moi, c'est bien, j'ai donné les deux options sans dire ce que vous avez. Bravo, je suis jamais mouillé.
Il t'en sort le cul propre.
Je suis content.
Gardez la face.
Ah là là,
je joue bien.
On partage les plats.
On va reparler du Gladiator cet été.
Et deux boulettes.
Ah là là.
Alors, Jonathan, juste en raison de l'euro, je ne serai pas à l'as.
D'accord.
En revanche, sache que je suis aussi Smix. Okay. Et que c'est des tournois qui coûtent vraiment beaucoup moins cher. C'est juste comme ça, c'est une info.
T'es au courant, on reste en contact.
On reste en contact.
Merci Jonathan, ça m'a fait plaisir de te recevoir pour la première fois dans le RMC Poker Show. Jérémy Mundir,
à la prochaine. Ciao, producteur.
Mes cartes sur table.
C'est le RMC Poker Show.
RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Tous les matins dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT. RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC?
Le 32-16, pour moi, c'est la liberté, quoi. T'entends un mec qui dit un truc à la radio, t'appelles, et 5 minutes après, tu passes à l'antenne et tu le contres, tu argumentes, tu t'interviens.
De 5h à minuit, le standard RMC n'attend que vous au 32-16.
RMC, bien plus qu'une radio. sur RMC. La nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC, RMC Story, la radio et la télé pour discuter, pour débattre. C'est donc l'heure des GG des Grandes Gueules. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, il sera question d'une liste potentielle de harceleurs qui fait frémir tout le festival de Cannes, d'une manif néo-nazie et de demande d'interdiction de la croix celtique, de la France qui est redevenue attractive avec des milliards d'euros qui se déversent sur notre pays. 32-16 pour discuter avec les GG, avec Joël Dagosséry, coach de vie. Bonjour ma chère Joël.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Charles Consigny, avocat. Bonjour Charles.
Bonjour à tous.
Et nous sommes avec Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. Bonjour mon cher
Jean-Loup. Bonjour.
À ne pas confondre avec François-Xavier Bellamy, le professeur.
Oui, on nous confond parfois.
Ah oui,
pas une... oui
dans la
pas
rue
une blague. Non mais quand je dis mon nom, les gens me prennent pour lui.
On vient de voir en disant je vais voter pour vous.
Oui, ça m'est déjà arrivé. On me dit j'ai voté pour vous, bravo. Et
moi, je dis, tu n'as pas trop chaud Jean-Loup.
Si, j'ai, une, oui. J'ai un coup de chaleur sur le plateau, je ne me sens pas très bien.
Ah, tu sais qu'il ne faut pas prendre de la drogue.
Tu veux un peu d'eau ou...
Tu sais que la drogue...
Attendez, est-ce qu'on peut apporter de l'eau pour Jean-Loup?
Il ne sent pas très bien. Et puis un petit peu de
chaleur à cause... Non, je pense à cause de l'éclairage.
Voudrait éviter un malaise.
La drogue dans les médias, c'était dans les années 80-90. Hein,
excuse-moi, mais la drogue dans les médias, c'est à 11h20.
On fait pas
avec Mathieu Kassovitz.
Alors, ah oui, effectivement.
Parce que Mathieu.
Un beau camé. Non, pardon, excusez-moi. Non, c'est une plaisanterie. Je parlais de Jean-Loup.
Ah bah.
Mathieu Kassovitz devait être avec nous vendredi. Je vous rappelle, il a un petit souci de circulation. Donc, il nous a promis d'être là tout à l'heure à 11h20. À l'heure. Pour parler de son film qu'il a réalisé sur le cannabis et qui va être projeté à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un débat sur l'autorisation ou la légalisation. Par quoi va-t-on commencer? Tiens, ta petite bouteille d'eau, mon cher. Ah ben voilà.
Là, il a la grande bouteille.
Un jerrycan d'eau.
On vit tout en direct. Bouteille d'eau, petit café.
Merci Louis Gerbier.
Voilà. Par quoi va-t-on commencer? Par ce concours de laideur et d'exhibition que l'on appelle l'Eurovision.
RMC, les grandes gueules.
Concours de laideur et d'exhibition que l'on appelle l'Eurovision, c'est pas moi qui le dis, c'est Ségolène Royal. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou pas? Déjà, rappelons qui a gagné. Il s'agit du Suisse Nemo avec sa chanson The Code. Nemo qui se présente comme artiste non-binaire.
Alors, non-binaire, il faut expliquer de quoi il s'agit.
C'est un... Ni droitier, ni gaucher.
Alors, c'est drôle parce qu'il est non-binaire et suisse. Donc, c'est vraiment la neutralité dans tous les sens du terme. Il est non-binaire, c'est un homme et qui ne veut pas se revendiquer ni homme ni femme. C'est pas un trans, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de changer de sexe ou vouloir changer de sexe. Il refuse finalement l'assignation biologique. Il se fait appeler Nemo, il est suisse. Carton d'audience, il faut préciser quand même samedi pour l'Eurovision sur France Télé. Rappelons quand même que la chanteuse israélienne a profité de tous ces appels au boycott et à ces manifestations à Malmö, puisqu'elle a fini très bien placée à la cinquième place, alors que tous les bookmakers pensaient qu'elle serait beaucoup plus loin. On ne misait pas un euro sur elle. Elle peut remercier donc Mathilde Panot, Émeric Caron, les Frères Musulmans et toute la clique. Alors notre Slimane tricolore a fini quatrième. Bon, c'est un peu au pied du podium, mais il était heureux. Il a même fondu en larmes. C'est le côté français. Et puis, si on résume la soirée par Ségolène Royal, voilà ce que dit Ségolène Royal. Ce n'était pas un concours de talent musical, mais un concours de laideur, de vulgarité, de grossièreté, d'exhibitionnisme. Sanctionné par la loi, mais diffusé à des millions d'enfants et d'ados, il faut espérer que pas un euro d'argent public ou européen ne soit allé à cette farce lugubre. Il faut préciser à Madame Royal que c'est diffusé par France Télévisions, donc il y a de l'argent public dans l'Eurovision. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est un concours de laideur, d'exhibition, c'est n'importe quoi l'Eurovision?
32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules, vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Oui, moi j'ai trouvé ça, si vous voulez, stupéfiant, mais c'est l'humanité actuelle, l'époque actuelle. Je comprends pas, si vous voulez, je constate que pour ne pas être homophobe aujourd'hui,
ni être transphobe. Il faut que finalement soit confié à des transsexuels ou à des travestis toutes les missions de la société. Donc, je ne sais pas si vous avez vu que la flamme olympique, par exemple, a été portée par des influenceurs, drag queen, etc. Mais et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que on finit par se dire que si on ne le fait pas, c'est qu'en fait il y a de la transphobie.
On n'est pas en phase avec la société.
De l'homophobie, etc. Et donc l'Eurovision était dans la même dans la même veine avec ce garçon, excusez-moi, qui à mes yeux demeure un garçon, même s'il porte des bas et des
et une jupette
et un tutu. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. Bon, j'ai vu que les bottes russe stigmatisait sur Twitter l'Occident dégénéré, l'Occident déliquescent. C'est vrai que c'était un spectacle quand même un peu pathétique. Le spectacle de la chanteuse espagnole ou du chanteur espagnol avec des hommes à barbe en cuissarde et en string. Enfin, excusez-moi, mais ça n'est pas être ni homophobe, ni transphobe, ni claustrophobe que de constater que c'est quand même...
Vulgaire, il est.
Mais oui, c'est quand même pathétique. D'accord. Et on se dit, vous savez, moi je me souviens, je m'étais fait... engueulé par la ce qui restait à l'époque de la presse de gauche, quand j'avais dit sur un plateau au musicien Kiddy Smile, qui avait été mixé à l'Élysée avec son t-shirt fils d'immigré noir et pédé, je lui avais dit en même temps, aujourd'hui, pour réussir dans la musique, peut-être qu'il vaut mieux être fils d'immigré noir et pédé. Et alors ça avait fait un scandale, etc. Et en fait, on constate aujourd'hui que c'est ça. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas non-binaire, femme à barbe, etc. Vous ne percez pas dans le monde d'aujourd'hui. C'est la nouvelle, le nouveau mainstream de l'époque. Et franchement, je suis pas sûr qu'on y gagne.
Joël.
Non, mais je suis ravie que toute la classe politique et toute la France découvre ce qu'est devenu le concours de l'Eurovision. Personnellement, j'ai arrêté de regarder dans les années 2000, début 2000. Je pense avec la femme à barbe ou l'homme à barbe, je ne sais pas comment on l'appelle. Exactement. Je pense que c'était la dernière Eurovision que j'ai regardée. Ensuite, j'ai fermé boutique parce que je considère que j'ai jamais été pour les zoos humains. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais...
Les zoos humains ?
Bah, c'est un zoo humain.
C'est un spectacle de foire.
Tu m'excuseras, c'est un spectacle de foire. Et les extraits que j'ai pu voir sur Twitter de la dernière édition, là, de samedi, confirment cela. Il n'y a plus rien de normal. On est l'un des seuls pays, à envoyer encore des chanteurs normaux dans ce concours.
Il y avait cette espèce de sorcière, là aussi, qu'on a beaucoup entendue, qui dit qu'elle a pleuré quand elle a vu la qualification de... une sorcière, cette femme.
Et le pire, c'est que pour gagner, il faut avoir ce type de chanteur. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des chanteurs ou des.
C'est de l'extravagance. Non,
on est au-delà de l'extravagance. Moi, je dirais que
ça marche. Est-ce que c'était pas la façon aussi de moderniser, déringardiser l'Eurovision.
Non, moi, je suis ravie que la France ne tombe pas dans ce genre de choses.
Slimane finit quatrième.
Oui, mais alors déjà sa prestation était magnifique. J'ai regardé la révision, elle était magnifique et on est encore l'un des derniers pays à envoyer des gens normaux. Alors oui, on gagne plus, d'accord, mais moi je crois qu'on gagne en dignité à ne pas se fourvoyer et à envoyer des extraterrestres, des non-binaires, des he-him, des she-her sur la place publique.
C'est-à-dire des yells.
Exactement.
Donc, le mot se
exactement. Donc, effectivement, pour moi, c'est un concours totalement laid. Et je t'assure que ça touche même presque à ma chrétienté. Parce que à chaque fois que je regarde ça, j'ai envie de me signer. Parce que je me dis, mais c'est les portes de l'enfer. Donc, j'ai envie de me signer. Donc, je suis désolée.
Il y a eu des réactions très, très fortes. Parce que alors, tous les politiques ont regardé cette année l'Eurovision. Puisque, comme il y avait l'appel au boycott des Israéliens, d'ailleurs, c'est devenu politique. Hein, on a vu tous ces politiques qui ont dit, moi, je vote pour l'Israélienne. Mais il y a Julien Aubert, l'ancien député LR, qui dit, c'est là une perte. C'est notre civilisation qui se meurt, en quelque sorte. Voilà, c'est le symptôme de la décivilisation du pays.
Oui, alors, en fait, plus exactement que notre civilisation qui se meurt, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est encouragé.
Pas que la civilisation qui se meurt, là.
Il y a Jean-Loup aussi.
Jean-Loup, tu veux en boire un peu d'eau, là ?
Ça va très bien, mais...
Oui, au fond, là.
Tu aurais dû venir en tutu, tu n'es pas à la page.
Non, mais je vais quand même essayer de donner mon avis. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce que tu appelles la crise de civilisation est encouragée en fait par le système, par le système médiatique, par le système culturel. Donc, de voir que tu as quelque chose qui est, c'est le système qui se sape lui-même, en fait, l'intérieur. Ce qui m'intéresse aussi, là, puisque c'est ce que tu nous as présenté, c'est que c'est la réaction de Ségolène Royal. Mm-hmm. Ça, c'est assez intéressant, puisque, en fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans les années, je crois, dans les années 80, il y avait une affaire qui était celle du Rainbow Warrior. Tu sais, ce bateau qui avait été saboté par des espions français.
Et les militants de Greenpeace.
Exactement. Ouais. Et l'un des espions...
Il y avait eu un mort, d'ailleurs, un photographe qui était à bord.
Et l'un des espions impliqués dans cette célèbre affaire, c'était le frère de Ségolène Royal. C'est-à-dire que Ségolène Royal, en fait, elle vient d'un milieu catholique, militaire, assez traditionnel. D'ailleurs, toute sa campagne de 2007...
Son père était militaire, général, colonel.
Exactement, son père était militaire, catholique. Et toute la campagne de 2007, elle l'avait fait là-dessus aussi, sur le thème du retour à l'autorité, de la défense des valeurs. Elle voulait l'uniforme à l'école, le drapeau, etc., etc. Et donc, en fait, là, t'as la collision entre l'ancien monde qui est représenté par Ségolène Royal et le chanteur non-binaire qui s'appelle Nemo, c'est-à-dire personne en latin. C'est ça que veut dire Nemo. Je pense que c'est pour souligner sa non-binarité. Et en effet, aujourd'hui, tu as, comme le disait Charles, quelque chose qui est d'omniprésent et d'obsessionnel dans le système, en fait. C'est-à-dire que ce genre de choses hyper minoritaires de la société. Moi, excuse-moi, je ne vois pas beaucoup de personnes non-binaires dans la vie. Là, il y a une surreprésentation organisée par le système dans le média, dans le monde culturel, dans les médias, dans le monde culturel, artistique, etc., etc., et qui, en effet, ne donne pas véritablement une belle image.
Ça rejoint un peu la décadence dont nous parlions en fin de semaine dernière.
Oui, mais c'est-à-dire, là, je pense que c'est pas exactement la société. Là, c'est pas un signe de décadence de la société, parce que je pense qu'en fait, ce n'est pas représentatif de la société. C'est un signe de décadence.
D'accord, mais c'est du spectacle. Mais c'est aussi du spectacle. Dans le spectacle, il y a toujours un côté excentrique. On se déguise, etc. C'est effectivement, c'est un peu le cirque. Mais est-ce que c'est pas aussi l'occasion? Ça permet aussi un vieux concours de chansons.
Pour eux.
Mais
je pense pas du tout que la nouvelle génération, excuse-moi, moi je suis professeur de lycée, je pense pas du tout que la nouvelle génération aime ça ou se reconnaisse.
Il y a quand même des
il y a quand même
5 ou 6 millions de gens qui étaient devant la télé, énormément de votants.
Oui, mais il y avait une affaire dans l'affaire, enfin dans le concours. Et l'Eurovision, c'est un concours de chant. Moi, mais on m'a jamais dit que c'était un cabaret transformiste. Je sais même pas comment ça s'est mué entre en ça, parce que moi j'ai regardé enfant. J'aime tout ce qui est Miss France, concours, etc. Donc j'étais très accro et je regardais ça. C'était comme un vrai rendez-vous pour moi. Puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, je comprends et plus ce que c'est. Parce qu'on a bien remarqué que c'était pas la qualité vocale ou alors la beauté du chant qui était mise en avant, mais bien autre chose. Oui, donc moi, je ne me retrouve plus. Exactement. Donc
aujourd'hui, Marie-Myriam, pour gagner, ça un devrait être de chant.
Ah bah...
Même les drag queens qui portent la flamme olympique. À la limite, qu'on mette une drag queen
À Marseille, c'est Martinique.
Mais Miss
Martinique. Miss Martinique était notre invitée.
Mais il y en a eu d'autres.
BFM.
Il y en a eu d'autres. J'en ai compté trois, moi, qui ont porté la flamme olympique.
Il y en a une à Paris qui va
porter. Et comme dit Jean-Loup, c'est quand même un peu beaucoup par rapport à la population de drag queen dans la population. À moins que vraiment tous les hommes de plus de 50 ans le soir. Sont se déguisent, telle la grande Zoa de Régine. Mais je pense pas. Alain, je t'imagine mal quand même. Tu vois.
Donc nous verrons quand la flamme arrivera à Paris.
Même, je sais pas si vous avez vu Charles Berling qui porte la flamme. Il a un problème, manifestement. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe quand même, hein? Non, mais regardez les vidéos de Charles Berling qui porte la flamme olympique. Il a un problème.
Il est excité, c'est vrai.
On va aller voir Christophe.
Je pense que le préfet doit s'en saisir et s'occuper de ce garçon.
Dans un instant, on va aller voir Christophe au 32-16. Il est du côté de Lyon, il est auto-entrepreneur. Il est plutôt d'accord avec Ségolène Royal qui voit dans le concours de l'Eurovision un concours de laideur, de vulgarité, de grossièreté et d'exhibitionnisme. Venez en discuter comme Christophe avec nous au 32-16.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Vous voulez une matinale où on vous parle de vos préoccupations, où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie? Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez, et puis vous voulez vous marrer? Bah, ne cherchez plus. On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud, et avec vous au 32-16. Alors à tout à l'heure, 6h30, 9h pour Apolline Matin.
RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct.
partout, tout le temps.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
L'IGG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Venez discuter, venez débattre avec nous du concours de l'Eurovision qui a été remporté par Nemo avec sa chanson The Code. C'est Christophe qui veut en discuter avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour à toutes les IGG,
ça va ? Ce qui vous épate, c'est que vous êtes d'accord avec Ségolène Royal, là, c'est ça ?
Oh, ouais, alors si on m'avait dit un jour que je dirais cette phrase, on va dire que c'est Ségolène Royal qui est d'accord avec moi, non ? Plutôt, ça fait moins peur. Non, c'est vrai que moi, je regarde le concours depuis que je suis tout petit. Hein. Ma mère regardait ça avec mon frère, donc j'étais obligé et puis j'ai pris goût. Mais là, c'est vrai que cette année, c'était vraiment à l'extrême. Hein. Faut savoir qu'il y a quand même une grosse communauté LGBT qui suit l'Eurovision, hein, qui va à l'Eurovision. C'est une grosse communauté LGBT. Hein.
C'est vrai aussi, oui.
Donc, je pense qu'ils cherchent quand même le vote, hein, le vote du public, même si ça n'a pas marché avec Israël, parce que le vote du public est en faveur d'Israël. Mais c'est
souvenez-vous, puisque vous parlez d'Israël, qu'il y avait un transsexuel israélien, Dana International, qui avait gagné il y a une dizaine d'années.
Israéliens ont toujours envoyé des bons candidats à l'Eurovision. Ils ont toujours été... Moi, cette année, j'ai voté pour eux juste pour que Mathilde Panot, elle se taise un petit peu. Mais c'est vrai que... Non, mais c'est une pauvre fille de 20 ans que les gens ont sifflé.
Et qu'est-ce qui vous a gêné dans tout ce concours, alors ? Parce que Ségolène Royal, elle va loin. Vous dites vous êtes d'accord avec elle. Donc, vous êtes d'accord sur la laideur, sur la vulgarité, sur la grossièreté, sur l'exhibitionnisme ? Vous êtes d'accord sur tout ça ?
Mais moi, ce que j'aime, c'est, je m'en fiche. Moi, c'est, contrairement à Joël, qu'on suit à Wurst, elle m'a pas dérangé. C'est pas ma cam, c'est pas grave. S'il y a du talent, parce que quand suit à Wurst, elle chantait, ou il chantait, je sais pas comment on dit, mais il avait du talent. Là, les Espagnols, mon frère, en Espagne, vient en Espagne, la candidate espagnole, pardon, mais c'était vraiment pathétique. Déjà, elle était pathétique, elle a failli tomber, elle arrivait pas à bouger, mamie. Et les danseurs, là, en surpoids, en gaine et string, bon, perso, je regarde ça avec mon gamin de 13 ans, donc on a rigolé parce qu'il a beaucoup de second degré, mais bon, c'est un peu pathétique. Après, l'autre, là, qui déterre un corps et qui est en mode zombie, qui a, en interview, qui a sifflé, qui a craché sur l'Union Européenne en disant qu'on était tous des vieux cons et que maintenant c'était l'époque des queers. Et peut-être, c'est ce que dit mon frère est gay. Et il me dit peut-être qu'on est dépassés. C'est peut-être l'époque des queers et c'est nous qui sommes dépassés. Non, hein. C'est peut-être ça.
T'es dépassé, non, Joël.
Comment on peut être dépassé?
T'as pris un coup de vieux, Joël.
Enfin, je veux dire,
t'as
ça
bien
reste...
fait de changer de sexe quand même, ça. Cela dit. T'as eu du pif là-dessus. T'as senti venir la tendance.
Non, j'aime bien mon sexe.
Non, la tendance, c'est non-binaire, Charles.
Mais je veux dire, comment on pourrait être dépassé puisque ça n'est pas la majorité? Et même cette caricature de l'homosexualité, enfin, pour moi, c'est une caricature. Vous entendez bien, vous imaginez si la majorité des homosexuels étaient ce qu'on voit à l'Eurovision, ou même ce que j'ai pu voir à la Gay Pride l'année dernière, c'était l'été dernier. Enfin, et là, c'est dans les rues de Paris, c'est pas comme si. Enfin, je me baladais avec ma fille et on est parti faire des courses et la Gay Pride passait. Enfin, j'ai vu des hommes en string, sur échasse, etc. Enfin, ok, moi je comprends.
La Gay Pride, c'est un carnaval.
Oui, oui, j'entends.
Quand
Ségolène Royal parle d'exhibitionnisme.
Oui.
Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui permet tout d'un coup de se dire, comme c'est la Gay Pride, c'est pas grave de voir un homme en string, enfin, plein d'hommes en string, parce que c'est pas un seul, plein d'hommes en string avec sur des échasses qui marchent et tout. Est-ce que c'est ça l'homosexualité forcément?
Oui, pour aller dans ton sens, c'est que Ségolène Royal, elle dit que, en fait, ce qu'on voit, c'est sanctionné par la loi, et c'est pourtant diffusé à des milliers d'enfants, et des millions d'enfants et d'ados. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est censé être un spectacle familial, le samedi soir, diffusé par le service public. Et elle estime qu'en fait, c'est grossier, exhibitionniste, et que ça devrait être censuré ou devrait y avoir un pictogramme. C'est ce que dit Ségolène Royal. Hein.
Elle n'a pas tort, nous dit Christophe. On va voir si Annie partage votre point de vue. On va aller du côté des Vosges avec Annie. Bonjour Annie.
Bonjour.
Vous faites quoi dans la vie, Annie ?
Je suis enseignante.
Enseignante. Est-ce que vous avez regardé l'Eurovision ?
Alors, on a regardé l'Eurovision en famille avec nos trois enfants.
Qui ont quel âge ?
Alors, 7 ans, 8 ans, 10 ans.
Bien. Alors, comment ça s'est passé quand ils ont vu passer tout le monde?
Eh bien, écoutez, pour tout vous dire, là où nous,
ça nous a... ce matin.
là où ça nous a vraiment interpellés, c'est que la première parole de nos enfants a été qu'ils étaient extrêmement gênés. Ouais. En fait, devant le spectacle de certains pays, eux-mêmes, et pourtant, je veux dire, on a des amis, par exemple, homosexuels, ils savent ce que c'est, ils en parlent beaucoup, on est très ouverts. Mais là, c'était vraiment dérangeant. Et c'est venu de vraiment directement des enfants. C'était dérangeant, que ça les gênait profondément. Alors, c'était surtout la prestation de l'Espagne, de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni. Ça, vraiment, ils ont vraiment été choqués et apeurés par la prestation de l'Irlande. Alors là aussi, c'était quelque chose. Mais là où c'est censé, justement, comme le disait votre auditeur précédent, être un spectacle pour toute la famille, eh ben, je pense que ça n'a pas du tout été pris en compte. Parce que,
oui, mais voyez, Annie, dans ce que vous dites, admettons que derrière, finalement, les organisateurs de l'Eurovision, via les réseaux sociaux, via des courriers, tout ce que vous voulez, se disent « le curseur est peut-être allé un peu trop loin ». Prenons cette hypothèse-là, Annie. Mm-hmm. Vous verrez que vous verrez une levée de bouclier pour dire censure, atteinte à la liberté. On veut brider l'Eurovision, brider l'artistique.
Dans un curseur au jour d'aujourd'hui où on fait très attention au niveau des enfants, avec justement les réseaux sociaux, l'accès à la pornographie, à ce genre de choses-là.
Ils ont quel âge vos enfants?
7 ans, 8 ans et 10 ans.
Ouais. Donc c'est trop jeune aujourd'hui pour regarder ce spectacle, vous dites.
Je pense quand même qu'il y a de quoi quand même. Nous, en toute honnêteté, on ne s'était pas trop posé la question. On n'avait pas vu, en fait, ouais, parce qu'il y a une histoire de sélection auparavant qui pouvait être visible. Bien on n'avait pas vu. Mais là, sincèrement...
Donc l'année prochaine, vos enfants, il n'y a pas question qu'ils le regardent.
Je ne peux pas vous dire pas question qu'ils le regardent, mais je pense qu'on sera peut-être un peu plus vigilant, ouais, justement sur ces fameuses sélections où les spectacles sont déjà montrés auparavant pour pouvoir passer...
Alors, Annie, restez avec nous. D'accord?
Oui.
Restez avec nous parce qu'on va écouter Grégory qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Grégory.
Oui, bonjour les GG.
Vous avez entendu Christophe avec ses réserves qui dit qu'il est d'accord avec Ségolène Royal. Vous avez entendu Annie dont les enfants, les trois enfants de 7, 8 et 10 ans ont été gênés. Et vous nous appelez pourquoi vous tenez à intervenir dans ce débat, Grégory?
Alors moi j'ai 37 ans aujourd'hui, j'ai été drag queen pendant 9 ans.
Oui.
J'habite Aix-en-Provence et je suis pas du tout avec vos réactions, mais alors pas du tout. On connaît la sexualité de Charles Consigny, les propos qu'il tient. Pourtant, je suis toujours d'accord avec lui en général, mais là aujourd'hui, je peux pas l'être. Je suis désolé. Et Joëlle Dagosséry, en bonne chrétienne qu'elle est, ses attitudes, enfin son discours, je peux pas l'accepter. Et j'adore votre émission, mais je peux pas du tout l'accepter.
C'est pas qu'une question.
Alors pourquoi?
Aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut pouvoir, on est en 2024, on n'est plus en 1920, et qu'aujourd'hui, il faut pouvoir accepter un peu de tout aujourd'hui, et l'acceptation, le côté excentrique peut être intéressant. Après, on aime, on n'aime pas, on accepte de regarder ou on ne regarde pas.
Philosophiquement, c'est vous les
mêmes. Mais voilà, c'est tout.
Mais vous voyez bien qu'il n'y a plus que ça aujourd'hui. Ouais. Comment vous expliquez, par exemple, que trois drag queens soient chargées de porter la flamme olympique? Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup par rapport à la proportion de drag queens dans la population? Quel rapport avec les Jeux Olympiques? Est-ce qu'il n'y a pas là la manifestation d'une idéologie à l'œuvre?
Non, je ne pense pas. Je trouve que là, aujourd'hui, c'est la diversité qui fait que...
Ouais.
Et qu'il faut pouvoir accepter.
Voyez, il n'y a pas d'idéologie derrière tout ça, selon vous? Par exemple, Nemo, non-binaire, c'est... Il n'y a pas d'idéologie. Ça vous paraît totalement neutre, le fait que ce soit lui le gagnant de l'Eurovision?
Absolument pas. Je n'ai pas été choqué. Je peux être choqué.
Non, mais ce n'est pas une question d'être choqué. Mais est-ce qu'il y a une idéologie qui est à l'offensive ou pas?
Pas du tout. D'accord. Je ne trouve pas, en tout cas. Je ne trouve pas. Oui, pardon, je dis
mais
le
est-ce
standard,
que vous entendez... Mais Grégory, est-ce que vous pouvez comprendre que ça puisse gêner éventuellement, comme le disait Annie, avec ses enfants, puisque c'est un spectacle aussi familial et autre.
Tout à fait, mais en ce moment-là, on ne regarde pas. Alors, du coup, on bloque la chaîne et on regarde autre chose.
Ouais.
Voilà, on regarde autre chose. Ouais, je disais au standard...
Après, c'est sur le service public. Donc, pour le coup, ça intéresse tous les Français, puisque c'est payé par les Français.
Je disais, par exemple, au standard, tout à l'heure, à votre collègue, que je suis allé à l'ouverture de l'arrivée du Bellem sur Marseille. Je ne suis pas du tout rap, mais alors pas du tout. Mais je n'ai pas été dérangé que ce soit un Joule qui allume la flamme sur le Vieux-Port.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une diversité qu'il faut savoir reconnaître. Il faut être tolérant, c'est ce que vous dites, Grégory.
Tout à fait. Tout à fait.
Alors, Jean-Loup Bonamy, mais, monsieur le prof de philo.
Excusez-moi, j'ai une question. Où est la musique ? Où est la musique ? Parce qu'en fait, il s'agissait d'un concours musical, populaire, familial. Or, j'ai l'impression que beaucoup d'artistes qui se sont produits, notamment le vainqueur, Nemo, ont voulu faire aussi quelque chose d'autre que de la musique et diffuser un message idéologique. Et surtout, ce que je trouve intéressant, et c'est ce qu'on disait là avec Alain, c'est que vous prenez la tolérance, et c'est très bien, mais finalement, c'est vous qui êtes assez intolérant, puisque si on ne pense pas comme vous, on est un intolérant, on est un méchant.
Pas du tout.
Et surtout, mais attendez, je veux juste souligner ce que vous avez dit. Vous avez dit, si cette femme, ça la dérange que ses enfants voient cela, eh bien qu'elle ne regarde pas. C'est-à-dire qu'il y a un grand concours européen populaire, et vous dites, si des enfants de 7 ans sont choqués de voir des drag queens s'exhiber, eh bien c'est à eux de ne pas regarder, de se priver de ce grand concours musical populaire. Et enfin, je terminerai, permettez-moi de citer, puisqu'on est dans le domaine de la musique, je cite le rappeur Booba, qui, je crois, a une déclaration assez juste, où il dit « LGBT, c'est très bien, mais pas pour les mineurs ». Bon, voilà, c'est-à-dire que la transsexualité, les drag queens qui s'exhibent, moi, je n'ai rien contre, mais est-ce que ça doit être quelque chose qui doit se faire massivement, publiquement, à des heures de grande écoute et devant un public potentiellement mineur ?
Allez-y, Grégory, réponse.
Alors, moi, j'entends ce que vous dites, J'entends ce que vous dites. Mais quand vous savez que vous allez regarder l'Eurovision ce soir avec vos enfants, en famille, vous savez sur quoi vous allez tomber.
C'est pas un concours de drag queen, normalement. Ouais. C'est un concours musical.
Un concours de drag queen, il y en a un sur France 2, qui s'appelle
Drag Race. Et qui a cartonné en audience, d'ailleurs.
Mais qui passe en deuxième partie de soirée.
Et surtout, je crois,
encrypté.
Que les, par exemple, les endroits, les cabarets, les clubs où se produisent les drag queens, et ce qui est tout à fait respectable, sont interdits d'entrer aux mineurs, il me semble.
On avait eu cette polémique.
Alors, si les clubs sont interdits aux mineurs, pourquoi montrer les mêmes spectacles à la télévision ?
Il y avait, je crois que c'était même en Vendée ou un truc, c'était lunaire, des cours de je ne sais plus quoi ou des spectacles de je ne sais plus quoi à destination d'enfants assurés par des drag queens. Et il a fallu que des élus locaux s'en émeuvent pour que ce soit pour qu'il y soit bien.
Joël, permettez Grégory que Joël vous réponde.
Grégory, j'ai un peu taquiné en disant que ma chrétienté est tout touchée, mais c'est pas le plus important. Moi, je pense réellement qu'on essaye quand même de protéger nos enfants de la nudité. D'accord ? Parle-t-on de ça. Vous avez un candidat qui avait le pénis à l'air. Et vous m'expliquez qu'il faut de la diversité. En quoi avoir le pénis à l'air, ça devient de la diversité? Enfin, la diversité, c'est pas tout et n'importe quoi. D'autant plus que dans ce concours, je ne vois pas de diversité. Je vois une idéologie de masse qui est présente et je vois peut-être un ou deux candidats comme la France peut l'être qui se démarquent par, entre guillemets, je vais dire, leur classicisme ou leur normalité.
Même la chanteuse israélienne est assez classique.
Où vous voyez de la diversité quand une majorité de candidats offrent un spectacle qui est soit de l'exhibitionnisme, de la nudité. Je sais pas, où est-ce que vous voyez la nudité? Et est-ce que vous avez besoin d'être chrétien, forcément, pour être choqué de cela?
Non, mais là, Joël...
Oui, Grégory.
Là, sur cette scène-là, en fait, où on voit la nudité, enfin, on voit...
Le candidat de la Finlande, c'est ça.
Le candidat de la Finlande, on imagine... Là, je suis entièrement d'accord avec toi, Joël, il n'y a pas de souci.
Ah, voilà. Donc, là, finalement, Ségolène n'a pas tout à fait tort. Mais, en fait, je me dis, Slimane, il n'avait aucune chance de gagner ce concours. Il n'avait aucune chance de gagner ce concours.
J'aurais bien voté pour Slimane si on aurait pu voter, ça, c'est clair.
Oui, mais alors, attendez, pas assez excentrique.
On va terminer avec Laetitia. Bonjour, Laetitia. Laetitia une fois, Laetitia deux fois, Laetitia
terminé,
trois fois.
C'est
bonjour
qui a
les
GG,
bonjour tout le monde.
Parce que Laetitia, vous nous avez appelé, vous avez été emballée par ce concours.
C'est le meilleur Eurovision que j'ai vu depuis des années en fait.
Qu'est-ce qui vous a plu alors?
J'ai regardé pour Slimane parce que ça fait des années bien avant qu'il soit connu que je le connaissais. Et puis j'ai été épatée par la diversité, pardon Joël. les costumes, les musiques. J'ai noté plein de chansons de pays qui m'ont plu cette année. Mais c'est super, quoi. J'ai adoré voir Nemo parce que, bon, c'est mon cas personnel, mais mon fils est transgenre. Mais j'ai aimé cette année voir que l'Eurovision s'adaptait à tout ce qui était en train de se passer dans le monde et que j'avais l'impression que c'était plus ouvert, en fait.
Voilà. Et pendant un instant, j'ai oublié la guerre, j'ai oublié les conflits, j'ai oublié. Voilà.
Ah bah on a vachement oublié avec le bashing de la candidate israélienne. Oui. On a
bah ouais, mais à un moment donné, Charles, je t'adore. Franchement, t'es mon idole.
C'est gentil.
Mais il y a un moment donné, moi, j'ai regardé le concours avec la musique. J'ai arrêté tout ce qu'il y avait autour. Ils ont fait une pause pendant l'Eurovision.
Ouais.
Voilà.
Ça, pas, donc, tellement, donc, pas tellement,
pas
tellement.
Pas sur la candidate israélienne.
Parce que si la candidate israélienne est arrivée aussi haut placée. Non, mais si elle est arrivée aussi haut placée, c'est pas forcément la qualité de sa chanson. C'est qu'il y a une mobilisation pour répondre aux manifestations de haine et aux appels au boycott. Donc en fait, on voit bien que.
J'avais juste envie de voir du spectacle et d'en prendre plein les yeux.
Vous êtes content parce que vous en avez pris plein les oreilles et plein les yeux. Vous avez été comblé, ça a été le show, quoi. Voilà, ouais, c'est ça que vous avez aimé, Laetitia.
À part le gars là qui s'est promené un peu tout nu, mais bon, il y avait de la fumée. Bon, il y avait de la fumée, voilà.
Vous faites réagir Jean-Loup, vas-y non, Jean-Loup.
Ce qui est intéressant, je crois qu'il faut bien en avoir conscience, c'est que l'Europe, puisqu'il s'agit justement de l'Eurovision, est devenue, voilà, on a fait ce choix-là, une terre d'immigration. C'est-à-dire, nous recevons de plus en plus d'immigrés de pays maghrébins, de pays africains, et on se plaint des problèmes de communautarisme, de repli identitaire, de manque d'assimilation. Mais en même temps, c'est normal. Comment est-ce que vous voulez que des gens issus de l'immigration, qui viennent de pays traditionnels, conservateurs, puissent s'assimiler à quelque chose qui est perçu justement comme clairement décadent? C'est ça le problème. Pour que les gens puissent s'assimiler, il faut leur donner un modèle auquel ils aient envie de s'assimiler. Ça, le concours de l'Eurovision, c'est une aubaine pour tous les ennemis de l'Occident. Pour les islamistes qui disent « Regardez comme les Occidentaux sont décadents. » Regardez les Russes, c'est une aubaine. Je me demande même si ce spectacle n'a pas été financé par des agents provocateurs russes ou chinois.
En tout cas, ils se sont jetés dessus.
Et là, ils se sont jetés dessus sur les réseaux sociaux, sur Twitter, dire « Regardez l'Occident décadent ». Et je suis désolé, c'est de notre faute.
Merci Grégory et merci Laetitia d'avoir abondé nos discussions. Merci à tous les deux. Passez une bonne journée. À bientôt.
Au revoir les GG.
Salut Grégory. Au revoir Laetitia. Eurovision, concours de laideur et d'exhibition. Oui ou non? Oui ou non? On va regarder le résultat final. Oui, 90%.
Ségolène, présidente.
Ah oui. Oh là 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 là.
Oui.
Bon, avant de continuer de passer
dans son pacte juste avec la nation.
Avant de passer, on s'en fout pas. Je vous rappelle que la roue RMC est de retour, les amis. Nous allons faire tourner la roue qui vous permettra de remporter jusqu'à 20 000 euros. La roue va tourner cette semaine dans chaque show, depuis Charles Matin jusqu'à l'after. Dès que vous entendez ceci, vous envoyez roue par SMS au 732-16. Ensuite, dans les GG, nous ferons tourner la roue. Il y a des petites sommes d'argent à gagner, mais on peut aller jusqu'à 20 000 euros. Ça vaut le coup de vous inscrire en envoyant roue par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Toute la semaine, dès 15h sur RMC. Retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio avec Éric Dimeco, l'ancien fou.
Oui, voilà. Alors il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Igwe, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présent de la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules aujourd'hui avec notre trio composé de Joël Dagosséry, coach de vie, Charles Consigny, avocat, et Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie. Tout à l'heure à 10h, on reparlera de ce qui se passe là sur au Festival de Cannes, plutôt de ce qui plane au-dessus du Festival de Cannes. On parle d'une liste qui sera révélée. De noms d'agresseurs sexuels, etc. Tremble le Festival de Cannes. Alors ça balance sur les réseaux sociaux. Ça, on ne peut pas dire que ce soit un très bel exemple de ce que vit notre société en ce moment. Enfin, on en parlera tout à l'heure à 10h. Réagir, vous avez le 32-16 à votre disposition. En attendant, eh bien, on va retrouver Anaïs Sainz pour le On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je ne peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Et bonjour Anaïs.
Bonjour Alain, bonjour
Gégé. Elle vient de descendre de son échafaudage, elle a repeint le plafond des Gégé, elle a gardé sa salopette de chantier.
Ouais, très belle ma salopette. Mais voilà, Alain, tu t'y connais pas. Une rave party qui vire au drame à Parnay, près de Saumur, dans le Maine-et-Loire. Un mort retrouvé en arrêt cardio-respiratoire hier et 200 personnes prises en charge par les pompiers pour un événement pourtant complètement illégal qui n'avait pas été déclaré aux autorités. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jean-Loup ?
On s'en fout pas.
Charles ?
On ne s'en fout pas.
Joël ?
On ne s'en fout pas.
Un rassemblement de 10 000 fêtards pendant 4 jours sur un terrain agricole de ce village de 450 habitants, sans accord du propriétaire, 150 gendarmes mobilisés, 5 plaintes déposées pour nuisances sonores, en plus de celles du propriétaire des lieux. Pourquoi on s'en fout pas, Charles ?
On s'en fout pas parce qu'il y a un mort. On peut pas s'en foutre. Après, moi, je comprends pas pourquoi à partir du moment où cette rave est illégale, où le propriétaire du terrain où ça se passe n'a pas donné son accord, pourquoi est-ce qu'on mobilise des gendarmes, etc. Moi, je suis pour qu'on mobilise des gendarmes, mais pour évacuer la zone, si tu veux, juste pour l'évacuation
de ce genre de truc. On n'ose pas parce qu'il y a 10 000 jeunes.
Eh ben, on l'évacue à coups de gaz lacrymogène, comme on le fait pour toute dispersion de manifestations non autorisées. Donc voilà, moi c'est ce que j'aurais fait si j'étais le préfet du coin. Et après, je ne dis pas que c'est de sa faute s'il y a eu ce mort. Je pense qu'il y a beaucoup de drogue qui circule dans ces rêves parties et que l'essentiel, il est là. C'est sur
elles sont d'ailleurs, en général, même si elles sont illégales, il y a toujours des bénévoles, médecins ou d'associations. De la
oui, il y a une espèce de complaisance
qui sont sur
en
place
fait.
D'ailleurs.
C'est-à-dire qu'il y a une espèce de complaisance. On organise les choses pour que ces jeunes gens puissent agréablement se droguer en toute liberté, en plein air. Bah non, évacuation, interdiction.
Joël ?
Non, je partage tout à fait ce que Charles a dit. Je rajouterais que si effectivement la mobiliser des pompiers, des gendarmes, etc. Enfin, quand on voit la facture, il y a un moment où quand on interdit les choses et que les gens veulent absolument le faire comme ils veulent, bah, c'est leur responsabilité.
C'est la collectivité qui l'a payé.
Mais oui, mais c'est exactement la même chose que quand on te dit avalanche, n'allez pas sur cette piste et que t'as des gens qui se disent non, moi je vais le faire. Et puis après t'as des hélicoptères qui sont mobilisés, des pompiers, etc. Enfin, il y a un moment où les gens n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Donc facture.
Il y a eu des participants qui ont été verbalisés, hein, 135 euros justement pour.
Enfin, ça payera pas le.
Oui, mais voilà.
Et alors, déjà, je n'aimerais pas être à la place de l'agriculteur en question, donc qui va récupérer son terrain saccagé. Espérons que ce n'est pas notre ami Didier Giraud. Voilà, parce que vraiment, l'état du terrain, ça doit être catastrophique. Ensuite, il y a eu un mort, donc bien sûr, on ne s'en fout pas. Mais moi, ce qui me surprend toujours, comme dans beaucoup d'affaires très différentes, c'est de voir. L'inertie, c'est-à-dire que je me souviens très bien, ça fait plus de 20 ans qu'on parle des rêves parties. Je me souviens, j'étais en 5e, c'était l'un des grands thèmes d'actualité de l'été 2001, quand Jacques Chirac était président de la République.
En 2001, c'était en 5e.
Oui.
Ah, ça donne un coup de vieux.
Et dans les vacances, entre la 5e et la 4e, je vois encore Jacques Chirac, président de la République, parler de la question des rêves parties en 2001, qui était exactement la même. Ils avaient la même tête, sauf que les gens qui avaient 20 ans en 2001, aujourd'hui, ils doivent en avoir 43, je ne sais pas s'ils vont encore en rêve party. On voit que le problème reste exactement le même, avec les mêmes problèmes de drogue, notamment de drogue de synthèse, d'occupation illégale.
Il y a un côté fort avec les faibles, faible avec les forts.
Oui.
Ils auraient été 400, ils auraient été dégagés, ils sont 10 000, on les l'espère. Et je pense à tous nos amis restaurateurs, à tous ceux qui gèrent aussi des salles de fête, des salles de spectacle, avec des normes incroyables. On ferme des restaurants, des terrasses, des salles parce qu'on n'a pas respecté telle ou telle norme. La norme incendie, la
même
norme machin, la norme sécurité pour les festivals. C'est un coup d'ailleurs pour tous ceux qui organisent légalement des festivités. Et là, c'est open bar. Donc c'est vrai que Gérald Darmanin, on l'entend plus. Chez quelqu'un des nouvelles du ministre de l'Intérieur, on ne l'entend plus.
Gérald, si tu nous écoutes.
Il y a quelques mois, quelques années, il serait monté au créneau. Là, il ne dit plus rien.
Mais c'est un coup pour la collectivité locale.
Et puis pour le pauvre agriculteur. Hein.
Mais la protection civile a été mobilisée, les pompiers ont été mobilisés, la Croix-Rouge a été mobilisée pour pallier, je cite ce qui a été dit, pour pallier la déficience des organisateurs. C'est-à-dire que les mecs installent leur sono, ne s'occupent de rien, et donc finalement, localement, tout le monde sait que la France est bonne fille.
Malheureusement, on n'a pas évité le drame,
Mais il y a 200 cas qui ont été traités dans les hôpitaux alentours. 200 cas par les pompiers qui faisaient des maraudes. Donc ça, c'est nous qui payons. Vas-y.
Le retour des QR codes, les GG QR codes pour circuler dans Paris près des sites olympiques pendant les JO. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël ?
On s'en fout pas.
Charles ?
On s'en fout pas.
Jean-Loup ?
On s'en fout pas.
Les inscriptions pour pouvoir entrer dans le périmètre de sécurité sont ouvertes dès aujourd'hui et sans le précieux sésame, les touristes et les habitants de ces quartiers ne pourront pas se déplacer librement. Pourquoi on s'en fout pas, Charles ?
C'est un recul terrible, je trouve. Moi, c'est terrible que la France aille dans ce genre de...
C'est le retour du Covid.
De choses qu'on croyait réservées à la Chine. Mais c'est vrai qu'on croyait réservées aux dictatures. Moi, je suis désolé.
Avec une enquête administrative, parce que je n'ai pas précisé, mais qu'il y aura une enquête administrative pour ceux qui vont faire la demande d'avoir ce QR code.
Mais ben, tu vois, j'habite sans doute dans... Moi, j'habite le 4e arrondissement de Paris. Je serais sans doute... visé par ce truc, je vais devoir me faire chier, pardonnez-moi, à faire cette démarche de merde dont je me contrebranle pour dire les choses comme je les pense. Et je trouve que les gens qui ont inventé ça sont vraiment.
Oui, mais c'est peut-être le prix à payer pour avoir des JO.
Mais c'est horrible. Mais franchement, comment est-ce qu'on accepte ça? Je veux dire, les Français se font marcher dessus par la médiocrité de leurs gouvernants. C'est-à-dire que on n'est pas des citoyens.
Mais comment tu fais alors ?
Mais on s'en fout de ces JO de merde. Oui, se démerdent pour organiser ça sans emmerder les gens qui habitent les quartiers en question, qui vont passer par là, etc. Moi, je trouve qu'ils vont beaucoup trop loin
pour les livreurs,
dans les mesures liberticides
si
d'une façon générale.
Tu vas te faire tabasser par la force publique.
Oui, je sais, je ne vais plus pouvoir passer. Mais de toute manière, même sans passe, on ne peut pas circuler dans Paris. Donc, ce ne sera pas si différent de ce que c'est
Joël.
La
vie. Ah mais ça c'est le début des emmerdes. Quand ça commence aujourd'hui, moi j'habite dans la zone rouge, donc Troca, etc. Et j'ai essayé de chercher, de comprendre, parce que si t'as compris, tu m'appelles.
J'ai essayé moi aussi.
Après essayer.
Le Pasio, j'ai pas compris.
J'ai rien compris.
Ça c'est la mise.
Et donc en fait ça c'est pas clair. Donc si c'est pas clair pour moi, pour nous qui sommes parisiens, va expliquer ça aux étrangers. Parce qu'il n'y a pas que nous qui devons faire cette autorisation pour circuler.
Bah, les livreurs.
J'ai regardé sur le sorateur de Airbnb. Personne, il n'y a rien, il n'y a pas une indication. Donc, si tu es étranger, que tu veux réserver un truc, il n'y a pas un truc qui te dit attention, prenez votre QR code. Donc, comment est-ce qu'ils ont travaillé? Est-ce qu'ils ont travaillé avec les hôtels, avec Airbnb?
Les amis, il y a un site internet.
Oui, j'y suis allé.
Habitable.
J'ai rien compris.
Il y a les cartes,
il y a les
rouges. Entre zone rouge, zone grise.
Alors, je te conseille d'aller voir la carte.
Ah ouais.
Déjà. Après, quand tu es sur la carte, tu vas sur mon pass JO pour essayer de voir si tu es concerné.
Non, mais c'est.
Et
non,
là, tu es là, on te demande des justificatifs, tu sais pas comment
les réglementer. Enquête administrative, je sais même pas comment on peut supporter ça.
La roue, ça au moins c'est simple. Ça au moins c'est on ne peut plus simple. Vous avez avec cette roue multicache RMC.
Il faut que Caranoni devienne préfet de police de Paris.
notre directeur d'antenne, mais Greg. Oui. Vous avez juste roue à envoyer par SMS au 732-16. Roue par SMS au 732-16. Ensuite, on fait tourner la roue. Vous pouvez gagner 100 €, mais vous pouvez monter jusqu'à 20 000 € à gagner dans tous les shows d'RMC. Donc, à vous de jouer, à vous de gagner. Vous m'envoyez roue par SMS au 732-16. À toi.
Et puis le film qui cartonne dans les salles, déjà 1,6 million d'entrées pour un petit truc en plus, deuxième meilleur score cette année. Et malgré cela, aucune marque ne veut habiller les acteurs, pour la plupart inconnus et porteurs de handicap. Écoutez Artus, le réalisateur du film sur France Inter ce week-end. Donc ils ne veulent pas effectivement habiller les acteurs lors de leur montée des marches du festival. Écoutez.
Non, je comprends pas pourquoi. Bah, là, on nous sort des histoires de quotas en disant ah, mais on a déjà prêté tous nos costumes, hein. On a déjà prêté, voilà. Donc
vous n'y croyez pas?
Non, je pense que bah c'est toujours plus élégant pour une marque d'habiller Brad Pitt. Mais vous savez, il y a encore, j'espère que ça va évoluer petit à petit. Mais on est encore sur, on fait de la comédie. Hein. Moi, je fais de la comédie. On est à Cannes,
c'est pas le monde naturel. Non,
ils aiment bien parce qu'on fait des films qui marchent, qui leur permettent de faire des films de plus d'auteurs. Mais après, on mélange quand même pas les torchons et les serviettes.
Alors Jean-Loup, tu ne t'en fous pas?
Ah non, on ne s'en fout pas. Moi, je pense que c'est assez intéressant ce que nous dit Artus. D'une part, justement, bah parce qu'il y a quand même une vraie problématique aujourd'hui autour de la question du handicap. Et c'est vrai que les personnes handicapées sont les vrais abandonnés de notre société. Et d'autre part, moi, je suis toujours un peu surpris par ces grandes marques de luxe parce que souvent, elles nous font des leçons de morale. Souvenez-vous de Christian Louboutin qui avait pris comme égérie la sœur d'Adama Traoré, par exemple, etc. etc., etc. Il y a plein de sujets sur lesquels le racisme, la transphobie, par exemple, où ils nous font des leçons de morale. Mais quand il s'agit des personnes handicapées, alors là, tout d'un coup, il n'y a plus personne.
Voilà. Mais avec ce Google, ils vont certainement trouver.
Allez, dans un instant, avec les GG, puisqu'on parle de Cannes, Cannes qui retient son souffle parce qu'il y a une liste d'agresseurs sexuels qui circulent sur les réseaux sociaux. Et on parlera aussi de la manif d'extrême droite néo-nazie qui a eu lieu à Paris, un élu socialiste qui demande à ce qu'on interdise les croix celtiques lorsqu'elles sont brandies comme signe politique. Je ne savais pas que la croix celtique était le signe de l'extrême droite néo-nazie. A tout de suite au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT. RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC ?
RMC, c'est une radio où tout le monde peut échanger. On écoute tout le monde, en fait. Voilà. Ça me permet vraiment sincèrement d'évoluer. Et RMC, il n'y a que RMC qui propose ça.
Vous écoutez RMC, RMC vous écoute. Le standard RMC vous attend au 32-16.
RMC, bien plus qu'une radio.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Venez discuter, venez débattre avec notre trio de GG aujourd'hui. Joël Dagosséry, coach de vie, Charles Consigny, avocat, et Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie. Nous recevrons Mathieu Kassovitz tout à l'heure à 11h20. Mathieu Kassovitz viendra nous présenter et parler de ce film, vous savez, sur le cannabis qui est sorti sur France 5. Mais il va aller le présenter à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une réflexion sur le débat, la légalisation, oui ou non. Kassovitz tout à l'heure à 11h20 avec nous. 11h20, GG, c'était match avec le fameux sommet Choisissez la France, Choose France. 15 milliards d'euros d'investissement, 56 projets. La France, le pays attractif, est-ce qu'on peut s'en féliciter ? Oui pour Joël et Olivier, non pour Jean-Loup et Charles. Venez débattre au 32-16. En attendant, on va parler du Festival de Cannes.
RMC, les grandes gueules.
Ce Festival de Cannes qui, paraît-il, tremble sur ses fondations parce que, il ouvre demain, hein, il y a une liste qui pourrait sortir, une liste d'agresseurs, de violeurs, de prédateurs sexuels.
En fait, c'est surtout une sale rumeur qui circule, notamment sur les réseaux sociaux, relayée par des comptes complotistes pour la plupart. Il existerait donc une liste de 10 acteurs, réalisateurs et producteurs du cinéma français, une liste de 10 noms mis en cause dans des affaires d'agression sexuelle qui pourraient être divulguées dès cette semaine, hein, dès le lancement du Festival de Cannes. Le problème, c'est qu'aucune information n'est confirmée, aucun fait avéré et aucune nouvelle plainte déposée. Donc c'est plutôt un MeToo décrédibilisé qui avance masqué. Parce que le principe du mouvement MeToo, c'est des plaintes, c'est des témoignages. En général, des témoignages qui ne sont pas anonymes, même si parfois ça peut arriver. Et là, on est dans l'inverse, on est dans la rumeur. Alors on nous dit, entre guillemets, quand on lit la presse sérieuse, que le monde du cinéma tremble. Mais pour l'instant, ça ne repose pas sur grand-chose.
32-16 pour en parler avec les jeux, en parler avec les grandes gueules, Charles. Voilà, écoutez, t'es maître consigné.
Non, mais moi je suis
Parce
au courant.
Parce que tu as vu qu'il y a des noms qui ont déjà été balancés sur les réseaux sociaux en plus.
Oui, alors on peut les. Est-ce qu'il faut les relayer
non.
ici? Peut-être pas.
Ah, non, pas
ah bon, d'accord.
Non.
Mais je les ai vus effectivement, ces noms, ce sont des acteurs.
De premier plan. Ouais.
Qui sont dans vigoureux. Et qui peut-être se sont rendus coupables de faits de cette nature.
Moi, du coup, tout le monde peut faire sa propre police.
Non, mais je pense franchement, enfin, C'est pareil, je ne vais pas être dans la ligne du parti, mais je pense qu'il y a une psychose aujourd'hui autour des affaires sexuelles. Figurez-vous que André Téchiné, qui est quand même un des... Mais même s'il était mauvais, d'ailleurs, réalisateur, ça ne changerait rien. Il se trouve que c'est un très bon réalisateur. Il est, pour l'instant, ses projets sont gelés à cause du témoignage et d'une plainte d'un garçon qui se plaint d'une caresse sur la main. Et le procureur d'Evreux, qui est saisi de ces faits, a dit, attention, si ça n'est que ça, ça ne va pas pouvoir occasionner des suites pénales. Mais... néanmoins, les projets d'André Téchiné à ce jour sont gelés.
Il y a une condamnation sociale,
mais
déjà.
Non, mais Depardieu a été effacé a posteriori. Il faisait la voix off. Enfin, pas la voix off, d'ailleurs, mais il prêtait sa voix pour un dessin animé.
Il sera présenté à Cannes, d'ailleurs.
Voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est le film. Pardon ?
Le doublage.
Voilà, il faisait le doublage d'un dessin animé. Depardieu, oui, quand il fait le doublage d'un dessin animé, c'est pas anodin, c'est quand même mieux quand c'est Depardieu.
Depardieu est mis en examen.
Oui, mais donc Depardieu n'est pas condamné par la justice.
Non, c'est vrai.
Et même le serait-il. Est-ce qu'on a le droit de séparer quand même un tout petit peu la sphère de quelqu'un
qui... Un réalisateur a le droit aussi de ne pas prendre
effacer
la liberté des deux côtés.
Mais d'abord, le réalisateur n'est pas vraiment libre. On le sait, puisqu'en fait, derrière, il y a une pression de...
Les distributeurs, les
chaînes de cinéma. Je le sais, parce que je parle aux communicants qui gèrent tout ça, etc. Qui sont les nouveaux rois de notre époque, les communicants. Ces nouveaux avocats d'aujourd'hui, moi je suis ringard comme avocat. Comme la justice a toujours 30 ans de retard sur tout et que les juges ferment leur bureau à 17h et que du coup les enquêtes n'avancent pas, bah forcément c'est les communicants qui prennent le relais parce que les affaires elles avancent dans la presse. Bon. Mais prends
un exemple, Charles.
Je trouve qu'effacer quelqu'un.
Laissons Depardieu, prenons le festival de Cannes, parce que là, c'est le festival de Cannes qui commence demain. La présidente du festival de Cannes disait ce week-end dans la presse, on verra au cas par cas et on prendra des mesures. Par exemple, cette liste sort, ou un journal sort une liste de noms. Est-ce que les gens qui sont dans cette liste et qui ont des films à présenter à Cannes, est-ce qu'ils doivent retirer leurs films? Est-ce qu'ils doivent
Mais en plus, prendre des mesures au cas par cas, sur la base de quoi ? Sur la base de rumeurs, sur la base de témoignages, sur la base d'une enquête de Mediapart. C'est Mediapart qui va faire la programmation du Festival de Cannes. Enfin, c'est dans ce cas-là, on peut brûler
Mediapart
code de procédure pénale.
Ne relaye pas ces rumeurs, justement.
Voilà, sans Mediapart,
on peut mettre le code pénal et le code de procédure pénale à la poubelle si ça ne s'applique plus, s'il n'y a plus de garantie.
Non, je crois qu'il y a une différence entre Depardieu et ce qu'on nous dit là. Depardieu, on a eu beaucoup d'actrices qui ont révélé qui ont témoigné effectivement avoir subi soit des attouchements, soit des agressions, etc. Là, on a une liste fantôme, on ne sait pas qui, quoi, où, comment. Et il faudrait tout de suite prendre des mesures au cas par cas sur la base de quoi, sur une liste qui sortirait deux jours avant le festival ou même pendant le festival. Il faudrait tout de suite sanctionner et prendre des mesures. Enfin, non, je suis quand même en soutien du mouvement MeToo, je crois quand même qu'il faut un peu placer le curseur, il faut un peu mesurer les choses. Et si vraiment il y avait des cas avérés avec des plaintes, etc., à ce moment-là, peut-être qu'un gagnant d'une palme, un vainqueur d'une palme, pourrait rendre sa palme a posteriori, après avoir été condamné, etc. Mais là, en amont, venir sanctionner... On ne sait jamais, parce que moi, je suis pas pour complètement séparer l'œuvre de l'artiste, parce que pour moi c'est un homme qui a été soutenu par un système, qui a peut-être profité de ce système en agressant certaines femmes pour monter sur les hauts du podium. Donc je ne dis pas qui, je dis que peut-être si c'est dans ce cas-là, alors à ce moment-là il faudrait rendre la palme. Mais en dehors de ça, enfin il est hors de question que tout d'un coup le festival de Cannes s'arrête parce qu'une liste fantôme va sortir. Enfin, on va pas être instrumentalisé par des gens qui déclarent que, en fait, voilà, dis non, allez hop, dis non, ben ces noms-là, blacklisté. Donc moi, je suis totalement contre ça.
Jean-Loup ?
Écoute, pour moi, c'est un peu compliqué de me prononcer parce que généralement, je ne m'exprime jamais sur ce genre d'affaires, ni dans un sens, ni dans l'autre, sur ce genre de sujet. Mais quand même, ce qui m'amuse un peu en tant qu'observateur de la nature humaine, c'est de voir qu'il y a tout un système qui, pendant des années, même des décennies, a couvert les pires dérives, a couvert des gens dont on savait pertinemment qu'ils avaient des comportements extrêmement graves, des viols, du harcèlement caractérisé. Ils ont été couverts, et maintenant le même système qui a couvert ces comportements pendant des décennies vient brûler ce qu'il a adoré, vient brandir des pancartes MeToo. Et vraiment, maintenant, le système qui a couvert pendant des décennies des viols avérés, maintenant, et des violeurs bien connus dans le système, avec cette fameuse phrase qu'on entend « Ah oui, mais tout le monde savait, tout le monde était au courant, personne ne disait rien », aujourd'hui, le même système, mais toujours avec les mêmes logiques de conformisme, de peur, fait un virage à 180 degrés, brûle ce qu'il a adoré, et maintenant, sur la base de la moindre rumeur, de la moindre suspicion, tu peux être condamné à une forme de mort sociale, mise au rancard par le même système. Mais en fait, c'est toujours la même logique. On va dans le sens du vent. Avant, il fallait couvrir les puissants quand ils commettaient des actes graves. Et maintenant, vu qu'il y a un virage qui est le virage MeToo, qui a eu du bon en soi, bah maintenant, il faut vraiment, justement, comme on s'est très